Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici, Jean-Baptiste,
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Ou l'avortement. Et dans cette soirée, eh bien, nous aurons l'occasion donc d'entendre une conférence sous forme de témoignage de Madame Gitane Maltais, qui n'est ni gitane ni maltaise, mais canadienne, présidente de l'association Secours et Vie. Madame Maltais est accompagnée et assistée par Madame Ginette Bouchard. Elle va aussi avoir une participation artistique et spirituelle dans cette soirée. Et avec ces deux dames, Monsieur Daniel Rivaud, qui complète ce trio. Monsieur Rivaud est président de l'association Journée mondiale pour la vie, la région Est de la France. Je signale que notre frère est co-auteur du livre L'avortement, la tragédie cachée d'une société qui s'effondre. Ce débat donc sur l'avortement est super actuel, bien sûr, puisque en Suisse, vous savez, les autorités fédérales ont été interpellées il y a quelque temps. Et elles vont devoir se prononcer dans un débat en faveur de la libéralisation de l'avortement dans notre pays. Et je crois que c'est vraiment important que l'Église commence à prendre conscience d'une manière plus précise des enjeux terribles que cela peut avoir sur la vie de notre société. Eh bien, nous n'allons pas tarder et tout de suite nous cédons la parole à notre sœur Gitane.
Alors, je vous souhaite la bienvenue et salutations du Canada. Je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est un grand honneur que vous me faites et que Dieu nous fait d'être ensemble. Je vais vous présenter ma sœur qui m'accompagne, Madame Ginette Bouchard, qui est aussi l'épouse de mon pasteur, qui a trois jeunes adolescents et qui est une sœur chérie. Ginette chante un magnifique chant qu'elle vous présentera elle-même.
Le chant que je voudrais vous présenter, c'est une Québécoise qui l'a composé. C'est bon de voir vos sourires. C'est probablement dû à mon accent. Je commence à être habituée. Voilà, c'est une Québécoise qui a composé ce chant. Un jour, Madame Maltais devait faire une interview à la télévision et puis elle a demandé à Rachel Petit, une sœur qui vient à notre assemblée, elle lui a demandé si elle pouvait lui composer un chant pour l'occasion. Et puis Rachel est arrivée 2 heures plus tard avec ce chant. Les paroles et la musique étaient toutes composées et je crois que ce chant est vraiment inspiré de Dieu. C'est le cri de l'enfant qui dit « Maman, ne me fais pas mourir ».
Te connaître.
Québec, nous sommes très peu nombreux à se battre pour la vie. Mais récemment, nous avons été encouragés parce que les troupes se sont vraiment encouragées mutuellement et nous voyons la main de Dieu sur nous. Nous voyons que vraiment le temps du Seigneur est arrivé pour que ces esprits meurtriers soient dénoncés. Et comme mon frère le disait tout à l'heure, Dieu a des bons calculs. Les mathématiques de Dieu arrivent toujours bien. Je suis née d'une famille de 12 enfants, 2 jeunes, 2 garçons et 10 filles. Nous avons des familles nombreuses au Québec. Nous avions, parce que nous sommes maintenant en dessous du renouvellement de la population. Nous sommes vraiment attristés parce que notre pays se meurt. Je suis la deuxième de la famille. J'ai été élevée par ma grand-mère, qui m'a donné tout son amour et toute sa tendresse. Et c'était pour moi une joie de lui rendre. Tout ce que je faisais, je le faisais pour elle. Et tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour moi. Au point qu'elle avait même accepté de peindre le salon en rouge. Ça n'a pas duré longtemps, 6 mois. Un soir, je travaillais, j'avais 15 ans. Je travaillais dans une pharmacie pour placer des articles dans les tablettes. Et je finissais mon travail à 9 heures. C'était l'été, pendant les vacances d'été. Mon voisin, qui était le père de ma meilleure amie, s'est arrêté pour me prendre en voiture. Il m'a amené dans le bois, m'a violé. Il m'a battu et a essayé de me tuer. Son intention était vraiment de me tuer. J'ai vu son regard meurtrier. Pour moi, c'était évident que je serais enceinte parce que je croyais que de voir un homme nu, je deviendrais enceinte. Il y a 38 ans de cela. À cette époque, les femmes n'avaient pas toutes les informations à partir de la maternelle sur la sexualité. Ce qui n'est pas un plus en passant. Cette soirée a été pour moi un revirement dans ma vie. Parce que je suis devenue enceinte de ce viol, que j'ai eu peur, peur. J'ai eu tellement peur. Pas seulement peur de mourir, tuée par cet homme, mais peur dans la forêt. Peur parce que j'avais mal, je souffrais dans mon corps et dans mon cœur. Peur des suites, parce que pour moi c'était évident que j'étais enceinte. J'ai été ramassée par une voiture taxi parce que j'avais réussi à me traîner jusqu'à la route, pieds nus dans la forêt. Et le taxi m'a ramassée, il m'a amenée à l'hôpital. Et j'étais 2 semaines sans dire un mot. Je ne pouvais plus parler. Après cette époque, c'est-à-dire le moment où le viol a été commis et le temps où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai vécu quelque chose d'épouvantable parce que je ne savais pas où me confier, à qui me confier. Mes parents n'étaient pas habitués d'avoir soin de moi. Ma grand-mère, qui était déjà âgée, a fait une crise cardiaque. Et c'était sur elle que je me reposais habituellement. C'était elle qui prenait part à toutes mes confidences, à mes peines et à mes joies. Alors, j'ai quitté ma petite ville quand j'ai su que j'étais enceinte. Cet homme a été condamné à 2 ans de prison suite à un procès. Et il a fait 3 mois. Mais c'est pas surprenant pour l'époque. Il était père d'une nombreuse famille, lui aussi. Ils étaient 9. Et les femmes n'avaient pas de droit de parole, même pour un viol. Et j'étais presque accusée par son avocat de l'avoir séduit. Je suis partie pour Montréal, à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi, c'était sur la côte nord du Saint-Laurent. Et j'ai travaillé pendant ma grossesse pour gagner un peu ma vie. Et j'avais une petite chambre et un jour, une religieuse m'a vue dans la rue. Je prenais une marche, elle m'a dit « Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez toute seule. » Je devais être en peine. Je ne sais pas pourquoi elle m'a abordée. Je lui ai dit que j'étais enceinte et que j'étais seule et puis tout ça. Alors elle m'a dit « Viens avec moi, nous avons un petit hôpital, tu vas rester avec nous et tu vas accoucher à notre hôpital. » Maintenant, avec le recul, je vois que tu protèges ses enfants. tu es restée là, j'ai appris à taper à la machine, à tricoter des bas, des mitaines. Et j'ai eu mon petit bébé. Maintenant, je vais vous dire que l'enfant d'une femme violée peut être aimé. J'ai aimé mon bébé de tout mon cœur. Je l'ai aimé de toutes mes forces, de tout mon cœur de fille de 15 ans. Et j'avais un cœur pour aimer parce que j'avais aucune malice en moi à cette époque. Maintenant, je veux démystifier que le viol peut simplement être une façon de faire des lois, une occasion de faire des lois pour l'avortement. L'enfant ne mérite pas la mort pour le crime du père. L'enfant m'a guéri de mon viol. Parce que pendant que j'étais enceinte, ce n'est pas au viol que je pensais. C'était à l'enfant comment me sortir d'affaires pour le garder. La vie prend le dessus sur la mort. La vie de mon enfant a guéri le viol. M'a guéri du viol. Je ne suis pas ici pour faire de la politique ou pour créer des mouvements qui n'ont rien à voir avec ce qui nous concerne tous et toutes. Je veux vous dire que c'est réel qu'un enfant peut guérir d'un viol et qu'il n'y a aucune raison d'avorter. Aucune raison valable aux yeux de Dieu et aucune raison valable pour nous. J'avais toutes les raisons de me débarrasser de cet enfant. Violée, trop jeune, sans argent, sans expérience, sans espoir. Qu'on ne dise pas qu'une femme qui est mariée, qui a deux enfants ou trois enfants, que le quatrième arrive, que c'est trop dur de le garder. Jamais je croirai une chose pareille. Et je sais de quoi je parle. Non seulement parce que j'ai vécu ce drame, mais parce que j'ai vu des milliers de femmes en conférence qui étaient brisées, déchirées, plus que je le suis maintenant. Et je veux vous dire que je n'accuse pas les femmes de se faire avorter, ni les hommes de les envoyer avorter. Je dénonce un état de fait, un drame social, familial, un drame spirituel grave. Maintenant, on fait ce qu'on veut avec ce que je dis. Mais je sais que ce n'est pas un plus pour chacun de nous et que c'est vraiment le plus grand crime jamais commis dans la société. Je ne veux pas que les femmes se sentent accusées par ce drame. Quand Jésus était sur la croix, puis a dit « Pardonne leur père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je sais que dans la société actuelle, les gens ne savent pas ce qu'ils font face à l'avortement. Ils ne savent pas la portée de leur geste. Ce qui n'excuse pas l'avortement, entre parenthèses. Huit mois plus tard, après mon accouchement, j'ai laissé mon enfant en adoption. Et il fait depuis 38 ans la joie d'un couple qui ne pouvait en avoir. Je dis la joie d'un couple parce qu'un couple qui adopte un enfant aime vraiment les enfants. On me donne parfois des exceptions pour faire la règle. Oh, j'ai connu une femme qui avait adopté des enfants qui les aimait pas. Je connais des gens qui ont eu des enfants et qui ne s'en occupe pas bien non plus. Il y a des exceptions. Et ce n'est pas avec ces exceptions-là qu'on peut faire des lois ou qu'on peut approuver une chose aussi grave que l'avortement. Quand j'ai laissé mon enfant, j'ai été déchirée. Parce qu'on ne laisse pas un enfant sans avoir le cœur brisé. Ce n'est pas l'idéal de vivre ce que j'ai vécu. Mais compte tenu de la situation que j'ai vécue, je crois que j'ai pris la meilleure décision. Un, de garder l'enfant en vie. Et ce problème a vraiment été posé il y a quelques milliers d'années par un dénommé Salomon. Il a été aussi réglé à ce moment-là. Deux femmes sont venues devant lui. Une a dit, disait que c'était son enfant, l'autre disait que c'était son enfant, vous connaissez l'histoire. Une a dit, tue-le plutôt que de le donner. Et l'autre a dit, donne-le plutôt que le tuer. Et pour moi, cette histoire est très claire. L'histoire de l'adoption a été réglée à ce moment-là. Vaut mieux le donner que de le tuer. Il n'y a aucune raison qu'une mère fasse une chose pareille. Mais je vais, au cours de mon énoncé, je vous dirai à quel point c'est difficile pour les femmes, le problème de l'avortement. Je n'ai pas pleuré toute ma vie parce que j'ai laissé mon enfant en adoption. Je ne suis plus une femme violée. Je suis une ex-violée. Je n'ai pas été violée toute une vie. Je ne suis pas une femme désespérée parce que j'ai laissé un enfant en adoption. Je suis libérée. Vous savez, quand on fait ce qu'on a à faire, dans le meilleur de notre connaissance, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, que nous croyons à Dieu ou pas. Surtout quand il s'agit de la vie. J'avais 15 ans, je ne connaissais pas Dieu personnellement comme je le connais aujourd'hui. Mais même à cette époque, je savais qu'un enfant était un enfant. Que dès son début, ce n'était pas autre chose qu'un enfant. Et que c'était un meurtre. Alors, c'est simple pour moi. C'était la logique. Je ne le tue pas et je verrai plus tard. Je vivais au jour le jour. Je vivais pas pendant 9 mois ou dans des années. Je serais devenue folle. C'était trop lourd pour mes frêles épaules. J'ai été très malade. Entre l'adoption et l'accouchement, j'ai vécu un problème intestinal qu'on appelait l'intestin qui était noué, dû au stress. Alors, on m'a fait voir un psychiatre. Et c'est ce psychiatre qui a gardé mon enfant. Quand je lui ai confié mon problème, il m'a dit, « Est-ce que tu veux me donner ton petit bébé? » Mon épouse et moi, on veut tellement avoir un enfant. Et on veut le choisir et puis... On a commencé par choisir la mère. J'ai trouvé ça tellement bon. J'avais tellement le goût de me faire dire que j'étais quelqu'un. Et tout à coup, il me disait que j'étais une mère. Parce que pour moi, après le viol, je n'étais plus rien. J'avais tout quitté pour me sauver, pour me cacher. Et j'étais une enfant. J'ai dit, je vais réfléchir à ce que vous me dites et je vous donnerai une réponse dans quelques jours. Il avait des qualités que j'aimais chez quelqu'un. C'était un artiste, il jouait bien du piano. Et c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui était raffiné, qui avait un raffinement pour élever mon fils. Il était doux et il était en amour avec les enfants. Je n'ai pas connu la femme de cet homme qui a adopté mon fils parce que je ne voulais pas la voir. J'étais jalouse d'elle. Je ne voulais pas savoir connaître le visage de celle qui prendrait mon fils dans ses bras. Quand ils sont partis avec l'enfant, j'ai pleuré, j'ai crié. J'ai même pensé à mourir. Mais ça n'a pas été long. Quelques jours après, je me suis ressaisie, puis je me suis dit, je vais avoir d'autres enfants. Je vais vivre heureuse. Et là, j'ai commencé à apprendre, j'ai continué mes études. Et plus tard, j'ai rencontré un homme que j'ai aimé et qui m'a fait deux beaux enfants, deux fils, qui font toute ma joie. Ils sont mariés tous les deux à deux magnifiques jeunes filles. Ce sont mes filles. Il ne faudrait pas toucher à mes filles. Je suis devenue comme une lionne. Maintenant, quand on regarde un peu trop durement mes enfants, j'en ai quatre maintenant. Des fils et des filles. Je défends mes enfants. C'est précieux, des enfants. Je donnerai ma vie pour eux. Autant mes belles-filles que mes fils. Et je suis grand-maman d'une petite fille de 2 ans. Et ça, c'est mon cadeau. L'enfant, c'est l'héritage de l'homme. Ce n'est pas une voiture, un terrain, une maison, un compte en banque. C'est l'enfant qui est l'héritage de l'Éternel. C'est l'enfant qui fait la différence dans la société. Qui fait la joie dans une maison. Qui élargit le cœur d'une mère et d'un père. Qui nous fait aimer la vie. Qui nous fait donner, se dépasser. Qui fait qu'on a de l'intelligence. On trouve des moyens d'agir plus. De faire des choses plus merveilleuses, parce qu'on a des enfants à élever. J'ai vécu d'autres épreuves dans ma vie, mais mes enfants m'ont donné plusieurs fois la vie, le courage de continuer, de me battre pour eux. Pourquoi construirait-on un pays si ça s'arrêtait après nous? Pourquoi bâtir des autoroutes, des belles maisons, des structures, faire des lois, si la vie finit après nous? Ce sont nos enfants qui nous motivent à construire. Et c'est mes enfants qui m'ont amené à Dieu. Alors je leur dois beaucoup. Ils sont pour moi un espoir pour demain. C'est vraiment mon héritage. C'est tout ce que j'ai. Je vis très bien. Dieu pourvoit pour tous mes besoins. Mais je n'ai rien à moi, à part mes enfants, qui sont vraiment toute ma richesse. Les femmes qui se font avorter ont de grands besoins. Parce que leur nature a été rejetée. Leur nature a été souillée. Il n'y a pas de plus grand viol que le viol utérin. La main de l'avorteur qui va chercher l'enfant avec des instruments de mort souillés. On dit aseptisé qui va déchirer l'enfant dans son sein. C'est le plus grand drame qu'une femme peut vivre. Dans son âme, dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. Elle a été rejetée comme si elle n'était pas faite pour enfanter. Dieu débute quelque chose dans son sein et on lui enlève. C'est anormal. Anormal. C'est anormal. Et c'est anormal pour un homme d'envoyer son épouse, sa conjointe, avorter. Lui aussi rejette sa nature. Sa nature est de protéger son épouse. Dieu a pris la côte d'Adam pour faire sa conjointe, sa femme. Il a pris la côte tout près du cœur, juste en dessous de ses bras pour la protéger, près de son cœur pour l'aimer. Il l'a pas pris sur sa tête pour que la femme domine. Il l'a pas pris sous ses pieds pour qu'elle soit écrasée. Il l'a pris tout près de son cœur pour qu'elle soit aimée et protégée. L'homme a des devoirs envers sa conjointe. Les enfants qui meurent sont les « je t'aime » des hommes et des femmes de votre pays et du mien. C'est un problème social. C'est un problème affectif grave. C'est un problème psychologique, un problème physique. Il y a des femmes qui meurent d'avortement. J'ai un cas précis à Sherbrooke d'une petite fille de 19 ans qui est morte d'un avortement. Elle est morte abandonnée alors qu'elle devait avoir des soins. Elle a été méprisée. On l'a laissé là comme un objet. Ne croyez pas que les avorteurs estiment les femmes. Ils les méprisent. Et c'est un grand drame psychologique. Physique parce qu'il y a plein d'infirmes gynécologiques qui courent nos rues et qui sont dans nos hôpitaux. Psychologique parce que plein de femmes veulent mourir à la suite d'un avortement. Et aussi spirituel, et j'y reviendrai tout à l'heure. Les femmes font des dépressions après l'avortement. Elles n'ont plus d'estime d'elles-mêmes parce que leur nature étant rejetée, elles ne savent pas qu'elles ont de la valeur et qu'elles sont précieuses pour la société, pour leur famille et aux yeux de Dieu. Et l'homme qui l'a envoyé se faire avorter perd aussi l'estime de lui-même. Parce qu'il n'a pas joué son rôle de père, de protecteur. Et c'est grave. Parce que souvent, il ne prend pas sa place dans le foyer. Parce qu'il n'a pas pris sa place de protecteur, il la perd. Parce qu'il n'a pas pris sa place de père, il est rejeté. Et beaucoup de femmes méprisent leur mari ou leur conjoint après un avortement. Parce qu'il a perdu simplement sa place. L'avorteur l'a pris. Il a fait accroire à la femme qu'il allait la protéger. Il l'a délivré d'un fardeau. Et parce que c'est un médecin, on a confiance en lui. Il a été le confident. Alors que c'est l'époux qui doit être confident, ou le conjoint, c'est l'avorteur qui a pris la place. Où peut-elle aller quand elle a été approuvée par ceux en qui elle a confiance, à savoir son conjoint et son médecin? À qui peut-elle se confier? À son pasteur, peut-être. Frères et sœurs, ce ne sont pas tous les pasteurs qui sont ouverts à entendre ce que vous entendez ce soir. Où peut aller une femme avortée, ou qui veut garder son enfant, ou qui veut simplement savoir, dois-je me faire avorter, oui ou non? La société est vendue à l'avortement. Il y a un complot du silence. Nous ne pouvons faire aucune publicité. Les postes de télévision, de radio sont fermés. Les journaux, quand ils font une publicité, en ce qui concerne l'avortement, c'est pour les dénigrer ou les ridiculiser. Où peut aller une femme enceinte qui ne sait quoi faire? Sa mère, peut-être qu'elle s'est elle-même fait avorter, et tout ce qu'elle connaît, c'est qu'un enfant peut être un fardeau pour sa fille. Les gens ne s'engagent plus pour leurs enfants. Ça demande des sacrifices de garder un enfant qui n'est pas désiré. Mais ça demande aussi des sacrifices d'élever des enfants désirés. Ça demande des sacrifices de cuisiner pour des enfants désirés, comme un enfant non désiré. Ça demande des sacrifices de faire parfois des choses que l'on aime. J'ai un fils qui est musicien. Et parce qu'il aime la musique, il pratique 5 à 6 heures par jour, à part ses études. Il aime la musique. Ça lui demande des sacrifices. Pourquoi un enfant non désiré demanderait plus que 3 repas par jour et un lit pour dormir? Il est comme un autre enfant. Et je vous assure que les enfants non désirés au début de la grossesse sont les enfants les plus choyés après leur naissance. Et ça, on a des statistiques là-dessus. De toute façon, une femme qui vit une grossesse non désirée est bien plus heureuse qu'une femme qui se fait avorter. Un enfant est moins lourd dans les bras de sa maman que sur sa conscience. Nous avons une jeune fille récemment de 13 ans qui a été envoyée par son infirmière, l'infirmière de l'école, qui a été envoyée se faire avorter et on lui a aspiré l'utérus. Les parents n'étaient même pas au courant qu'elle était enceinte. Ils ont eu un téléphone du médecin de l'hôpital en urgence parce qu'elle était à l'article de la mort. 13 ans. Nous sommes en danger. L'ennemi est entré dans nos maisons. Et le pire, c'est qu'on ne s'en est pas méfié. Il y a eu des voix isolées qui ont crié « Attention ». Mais on s'est moqué d'eux souvent. C'est comme dans la vie chrétienne quand on parle de Jésus. On nous traite de fous ou d'illuminés. L'enfant, l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est la vie. Il est la vie. Et quand les médecins me disent que ce n'est pas une vie, je leur demande pourquoi ça saigne. Je demande au médecin pourquoi ça saigne. Je ne l'ai pas encore demandé face à face, mais dans des émissions radio, je demande ça au médecin. Peut-être qu'un jour, on va me faire une réponse. On va me répondre. Si ce n'est pas vivant, ça ne saigne pas. Le sang est transporteur de vie, n'est-ce pas? Le sang des innocents crie vers Dieu. ça j'en suis persuadée. Cette force que Dieu nous donne pour protéger la vie, envers et contre tous, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse à l'heure actuelle. J'ai accepté le Seigneur il y a 13 ans. 2 ans plus tard, j'ai eu un appel pour faire ce que je fais ce soir. J'ai donné mon témoignage il y a seulement pour la première fois il y a 5 ans. Je ne savais pas que c'était important de faire mon témoignage. Mais je donnais l'alternative à l'avortement aux jeunes femmes. Et cela depuis 10 ans. En 90, j'avais été invitée à aller faire mon témoignage à Ottawa lors du passage de Mère Teresa. Et c'était la première fois que je le faisais et il y avait 25 000 personnes. Je suis passée à 10h moins 15 pour faire mon témoignage. Ça finit à 10h moins 5. Et je suis sortie de là à 4h après-midi. Il y avait tellement de gens qui venaient me questionner. Je ne pouvais pas passer nulle part. Je ne pouvais pas partir. Les gens étaient autour de moi jusqu'à 4h l'après-midi. Et là, j'ai vu l'importance de démystifier le viol, l'adoption et l'amour, la haine, c'est-à-dire pour un enfant né d'un viol. Les hommes qui envoient leur femme avorter ne savent pas que c'est eux-mêmes qui meurent. Après un avortement, je disais tout à l'heure que les femmes restent démunies, brisées, parce qu'elles sont atteintes dans leur chair. Les hommes s'en sortent mieux, parce que c'est moins près d'eux. Parfois, la conjointe est partie, ou ils n'ont pas senti l'enfant dans leur sein. Ils n'ont pas passé par les mains de l'avorteur. Ils n'ont pas eu mal au ventre, n'ont pas vu le sang de leurs enfants. Mais la femme a senti tout cela. Elle a tout vu. Elle a tout vécu toute seule. On voit des hommes qui vont prendre la main de leur femme lors d'un accouchement, mais très peu le font quand elle se fait avorter. Ils ont toujours une commission à faire, quelque chose à faire, une course quelque part ou un rendez-vous important. Ou bien ils la laissent aller toute seule dans la salle d'avortement. Elle sort de là meurtrie et brisée à jamais. Je dis à jamais parce qu'il n'y a rien de Dieu pour délivrer de cet esprit meurtrier. Quand une femme se fait avorter, autour du couple, il y a 4 esprits. Le premier est l'esprit de séduction. Quand je parle de séduction, je ne parle pas quelque chose de temporaire. Quand un esprit vient pour séduire quelqu'un, c'est qu'il le lie. Un esprit de mensonge. On lui dit, ce n'est pas un enfant. Et là, la séduction entre en jeu. On lui dit que ce n'est pas un enfant et elle le croit. Ensuite, il y a un esprit de division. Il vient dans le couple. Parfois, la femme veut se faire avorter, l'homme ne veut pas, ou l'homme veut, puis la femme ne veut pas. Ils sont divisés. Et l'esprit de séduction arrache l'enfant, de division arrache l'enfant du sein de la mère. Alors la vie vient d'être arrachée, divisée. Et l'esprit de meurtre vient tuer l'enfant. Et ces 4 esprits restent là. Les couples qui vivent un avortement sont toujours divisés tant que Dieu n'a pas enlevé cet esprit, n'a pas délivré. Les couples qui ne sont pas au Seigneur, c'est très rare qu'ils restent ensemble. Et ceux qui sont à Dieu vivent des déchirements, culpabilité. Ils ne savent pas pourquoi ils s'engueulent pour rien. Ou n'importe quoi peut les diviser. Une bagatelle, une toute petite chose peut les diviser. Je vois M. Rivaud qui vient de rire, je fais une gaffe. C'est mon langage qui le fait sourire. Et cet esprit qui est là, qui reste là, fait des ravages après. La séduction continue. Le mensonge continue. La division continue. Et le meurtre aussi. Les femmes font des tentatives de suicide ou veulent se suicider. Elles se battent avec cet esprit de mort qui a pris leur cœur, leur âme. Et les enfants qui naissent après se suicident ou tentent de se suicider ou pensent au suicide. J'ai rencontré une dame de 67 ans qui m'a dit « Je me suis avortée avec des aiguilles à tricoter à 20 ans. Et depuis 47 ans que je me bats à tous les jours pour rester en vie parce que j'ai toujours le goût de mourir. Qu'est-ce que j'ai ?» Les enfants se suicident. Les couples divorcent. La séduction prend de plus d'ampleur et le mensonge. Le mensonge vient souvent des politiciens parce qu'ils ont eu la même vie que nous. Des médias. C'est comme un cancer dans le pays. C'est un cancer que seule l'Église a le remède. Nous sommes les seuls à voir la solution. Cet esprit de meurtre amène directement à l'euthanasie. C'est un entonnoir sans issue. Jamais on ne pourra se sortir de l'euthanasie ou arrêter ce progrès sans arrêter l'avortement. Mais avant, il y a eu la séduction de notre jeunesse. On enseigne la sexualité à la maternelle. On fait des mensonges à nos enfants. Des jeunes filles de 10, 12, 13 ans, parfois plus jeunes, et des jeunes garçons ont déjà eu des relations sexuelles. C'est sans issue. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas d'issue. Sans délivrance, les femmes vont continuer à mourir lentement. Et les hommes aussi. Peut-être que les hommes s'en ressentent moins. Mais moi, je vois la souffrance des femmes. Je n'ai pas le goût de commencer un militantisme pour accuser ceux qui se font avorter. Dieu a touché mon cœur plus en profondeur que cela. J'ai simplement le goût d'être les bras de Jésus, d'être ses yeux et d'écouter avec son oreille. D'entendre les cris de l'enfant dans le cœur, dans le corps de la maman. Et d'entendre aussi le cri muet de la mère. Parfois, elle dit qu'elle a voulu se faire avorter, mais c'est pas ce que j'entends. Un jour, j'ai y a une jeune fille de 16 ans qui m'a téléphoné. Elle a dit, si tu viens pas tout de suite me voir, dans une heure, je ne suis plus ici. Je suis arrivée chez elle, elle avait été avortée, ça faisait 2 jours. Elle faisait une hémorragie. Et les avorteurs ne reprennent plus le travail. C'est-à-dire que s'il y a une complication, on ne la reçoit pas pour voir si elle a besoin de soins. De toute façon, ce ne sont pas les soins qu'ils donnent. Ils avortent. Et c'est ce que j'ai vu, à quel point c'était cruel. Elle avait rappelé le médecin. Il n'avait pas voulu la recevoir. Il lui avait donné aucun conseil. Il a dit, tu téléphoneras à l'hôpital, tu prendras un autre médecin. Elle faisait une hémorragie, et quand j'ai vu le sang dans son lit et les taches jusqu'à la toilette, la chambre des toilettes, je me suis dit, est-ce que c'est son sang ou est-ce que c'est encore le sang du bébé? Je savais pas. Je sais maintenant que c'était son sang, mais à ce moment-là, je savais pas. Et je me suis mis à genoux par terre et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai pris cette jeune fille dans mes bras et j'ai pleuré avec elle. Je me sentais tellement un cœur à cœur avec le Père. Cœur à cœur avec Dieu à ce moment-là. Et je sentais tellement sa souffrance. Je savais qu'elle avait été avortée et je lui avais conseillé de ne pas se faire avorter. Et en un instant, elle avait changé d'idée. Et j'ai pleuré pour cet enfant-là. J'ai pleuré plus que la mère, plus que le père, plus que les grands-parents. C'est anormal que ce soit moi qui ai pleuré pour cet enfant-là. Ça m'arrive souvent de pleurer pour des enfants qu'on perd comme ça. C'est arrivé 3 ou 4 fois en 10 ans. Mais quand c'est arrivé, c'était dramatique pour moi. Pourquoi j'ai tellement pleuré pour ces petits-enfants qui ne sont pas les miens, avec qui je n'ai rien en commun? Si ce n'est que le Père, mon Dieu, a pleuré pour eux. Plus je m'approche du cœur de mon Père céleste, plus j'aime la vie et plus je connais la valeur de la vie. Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Il est la vie. Il est la vie. Et quand le violeur m'a touché à ma vie, il a touché à Christ. Et quand l'avorteur a touché à la vie de l'enfant, il a touché le sein de la mère, il a touché à Christ. Et moi, j'aime mon Dieu. J'aime la vie qu'il a donnée. J'aime sa vie qu'il a donnée pour moi. Et j'aime la vie qu'il m'a donnée. Et c'est pour cela que je défends la vie. Je vous exhorte, frères et sœurs, à vous lever comme un seul soldat, comme un, en unité, et vous battre pour ce que vous considérez être votre héritage. C'est votre héritage que le diable vient vous voler. Il est voleur, tueur et menteur. Le combat politique est mené par plusieurs personnes au Canada face à l'avortement, parce que c'est aussi un combat politique. D'ailleurs, notre frère en a parlé. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent, mais il y en a qui sont sincères. Et ceux qui s'en servent nous servent aussi. Parce que même s'ils s'en servent, et si ça sauve des vies, Dieu a gagné. Je crois vraiment, à travers l'avortement et cet esprit meurtrier qui ravage nos vies, nos pays, je vois vraiment les temps de la fin. Je vois vraiment que Jésus est prêt de revenir. Ce n'est pas moi qui sonne l'alarme. le Seigneur. Je vous exhorte, frères et sœurs, à prier pour ceux qui se battent pour la vie, à communiquer avec ces missionnaires, parce que c'est une mission que Dieu donne. C'est une mission très spécifique. Et je considère que Dieu m'a fait un grand honneur de m'appeler pour cette mission. Je vous exhorte à les encourager, supporter dans la prière, aller leur donner un coup de main, recevoir les jeunes filles qui ont des besoins. Priez pour nous. Nous avons besoin de tellement de prières. L'ennemi est tellement enragé contre la vie. Je vous exhorte aussi à vous unir, à rester unis pour l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas l'œuvre des hommes, sauver des vies. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Le diable est un meurtrier. Il voudrait bien les tuer. Et Dieu est la vie. Que Dieu vous bénisse et vous chérisse.
Vous imaginez bien qu'après un tel témoignage, c'est un homme bouleversé qui va diriger maintenant un petit peu le temps de questions. Et je crois aussi que c'est une interrogation extrêmement sérieuse qui est posée à l'Église de Jésus-Christ sur la terre à travers ce type de témoignage. Si on se rappelle que quand Dieu s'est choisi un peuple, un pharaon a voulu tuer les enfants de ce peuple.
Amen.
Lorsque Dieu a envoyé son fils sur la terre, un Hérode a voulu tuer les enfants qui étaient nés en même temps que ce fils. Et maintenant que Jésus revient,
amen,
il veut tuer ce même ennemi à travers notre égoïsme, notre technique, notre art médical qui serait là pour sauvegarder la vie. Nous en faisons une trahison et un mensonge pour tuer les fils et les filles qui verront le retour de Jésus-Christ.
Amen.
C'est le plan de destruction satanique n'a pas changé d'un iota depuis qu'il agit au milieu de nous. Mais rappelons-nous que le plan de Dieu s'accomplit au iota et que la vie triomphera. Est-ce que nous voulons être passifs en constatant la destruction chez les autres, ou est-ce que nous voulons réagir avec Dieu qui nous le demande pour entrer dans le combat qu'il a préparé et gagné d'avance? Je pense que c'est une terrible interrogation qui a contribué ce soir à détruire des choses en moi que le Seigneur avait besoin de détruire. Si quelqu'un veut poser une question, je la répéterai après pour qu'elle puisse être enregistrée et notre sœur Gitane pourra répondre. Il faut toujours un courageux qui se lance pour une première question. Je veux peut-être moi-même me faire l'interprète de plusieurs d'entre vous qui ont une question sur le cœur. On aimerait avoir des nouvelles de ce premier enfant, que ce premier fils que Gitane a mis au monde, qu'elle a reçu en le comprenant toujours davantage après comme un cadeau, et dont elle a fait cadeau à un couple pour le rendre heureux. Est-ce qu'elle le connaît maintenant? Elle voit ce qu'il devient? Est-ce qu'elle a des nouvelles? Je crois que plusieurs avaient cette question dans le cœur.
Non, je ne l'ai pas revu, mon fils. Mais j'ai donné mon nom, mon adresse, toutes mes coordonnées à un organisme qui s'appelle Les Retrouvailles, qui cherche les enfants confiés en adoption. ou qui cherche les parents. Et il ne m'a jamais fait signe, il ne m'a jamais contacté. Je crois qu'un jour Dieu va le mettre devant moi. J'ai tout remis au Seigneur. Je ne suis pas blessée de ne plus le voir. Je ne suis pas blessée de ne jamais le voir. Il était au Seigneur.
Oui, je répète la question. Donc, d'un monsieur qui milite dans le sens de notre sœur Gitane et qui demande quel conseil elle peut donner pour les jeunes au niveau des choix en matière de relations sentimentales, amoureuses ou sexuelles.
La parole de Dieu dit de ne pas provoquer l'amour avant qu'il soit temps. Je crois vraiment que c'est bon pour l'homme d'attendre au mariage. Ce n'est pas une punition que Dieu nous a donnée. C'est une protection. Il sait très bien les conséquences des relations entre hommes et femmes avant maturité. C'est des enfants avant terme. C'est-à-dire avant d'être capable de prendre. Je sais, j'avais 15 ans quand j'ai eu mon bébé. J'avais pas la maturité. C'est l'avortement. Et c'est la jeunesse qui se perd. L'innocence. Un jeune doit rire longtemps pour emmagasiner de la joie. Et quand on commence des relations amoureuses, sexuelles avant, ça brise le cœur des jeunes. Des grosses peines d'amour, des tentatives de suicide après, parce qu'elles et qu'ils sont déçus et qu'ils ne sont pas capables de supporter l'épreuve. L'épreuve est trop grande pour les jeunes épaules. Une peine d'amour, c'est trop difficile pour des jeunes. C'est une grosse épreuve. Parfois, les adultes ne comprennent pas qu'une peine d'amour fait si mal et qu'une jeune femme, une jeune fille ou un jeune garçon tente de se suicider. Mais c'est parce qu'ils sont trop jeunes pour prendre l'épreuve. Ils sont pas assez forts. C'est la vie qui a guéri les gens. Et quand on est trop jeune, on n'est pas capable de vivre. C'est pour cela que je vous conseille vraiment de mettre votre corps au service du Seigneur et d'attendre qu'il vous donne soit un mari ou une épouse selon son cœur. Quand il vous a choisi, il a choisi le conjoint avec. En même temps, il vous a déjà destiné un époux. Et c'est merveilleux son plan. C'est pour notre bonheur qu'il l'a fait.
Je répète juste la question. Pensez-vous que la miséricorde de Dieu peut toucher une femme qui a passé l'avortement par l'avortement si elle se repent?
Le Seigneur n'attend que ça. J'imagine de voir son petit enfant qui crie « Pardon, Seigneur ». Moi, quand mes enfants viennent vers moi, puis même s'ils font la pire gaffe, ils disent « Pardon, maman ». J'oublie tout. Le Seigneur est encore meilleur que moi. Je pense que Dieu attend seulement la repentance de ses enfants.
Je répète la question. Que penser de l'argument pour justifier un certain nombre d'avortements, d'un danger grave pour la mère ou de conséquences pour l'enfant? Je donnerai peut-être juste avant de laisser la parole à Gitane pour la réponse. Les données à peu près récentes statistiques des avortements, il y a trois chiffres qu'il faut retenir en gros. 90%, 90% sont pour des raisons dites psychosociales. Donc, ou des questions même justifiant à tort l'avortement, mais où des questions médicales n'entrent pas en jeu. 2% sont des raisons dites eugéniques et elles risquent d'augmenter avec les techniques de dépistage, c'est-à-dire justement des situations de malformation possible. Les deux causes les plus fréquentes étant la rubéole et le mongolisme. ce qui fait que techniquement on croit résoudre ces problèmes alors que on n'a pas mesuré en tant que technicien l'amour que des parents peuvent apporter à un enfant qui est porteur du mongolisme. Et puis 8% sont des situations médicales assez graves chez la maman pour que la grossesse puisse apporter des complications. Alors je dis pas que c'est une justification de l'avortement, mais c'est pour donner un peu les pourcentages, en tout cas recueillis en Suisse, quand on essaye, ce qui est d'ailleurs extrêmement difficile, de faire des statistiques. Je laisse Gitane apporter sa contribution aussi à la réponse.
Je crois qu'une infirmité chez un enfant peut être très formateur et très bénéfique dans un couple. Les gens que j'ai connus, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu des enfants infirmes, en particulier mongols. Ces enfants-là sont chéris. Et ils ont gardé le couple très uni. Dieu confond la sagesse de l'homme. Et ça lui fait plaisir de le faire. Les enfants infirmes, je connais une grande artiste au Québec qui a eu 2 jumelles. Une est normale et l'autre est mongole. Et celle qui est normale aime sa petite sœur et elle est artiste. On les voit à télévision, ils en parlent ouvertement et c'est l'enfant chéri de la famille. Et j'aime quand Dieu confond la sagesse des hommes comme cela. Est-ce que ça répond à votre question?
La question donc où la mère elle-même est en danger à travers la grossesse.
Je pense que si elle est en danger pendant la grossesse, elle est en danger aussi pour avorter. Les gens ne savent pas à quel point l'avortement peut être dangereux. Elle est en danger d'avorter. Moi, je ne crois pas qu'une femme doit se faire avorter. Si on met les choses dans les mains de Dieu, c'est incroyable les miracles que j'ai vus. Des enfants condamnés par les médecins, des femmes condamnées, j'ai entendu ça déjà, c'est rare. Mais quelle crainte on sème dans le cœur des femmes, souvent des femmes qui ont dit « Ah mais, si je m'avorte pas, je vais peut-être mourir. Mais moi aussi, je vais peut-être mourir demain. » Non, pour moi, il n'y a aucune raison de prendre la place de Dieu sur mon corps ou sur le corps de quelqu'un d'autre.
Il est évident que toutes ces situations que l'on peut poser comme situations particulières qui pourraient justifier éventuellement un avortement doivent constamment être mises en relation avec ce que Gitane vient de dire, c'est-à-dire de vivre tout ce que nous avons à vivre en se rappelant qu'il y a un combat entre des puissances de mort et des puissances de vie, que ce combat est gagné par Dieu lui-même et que nous pouvons nous allier à lui dans ce combat. Et que la puissance de la vie est absolument extraordinaire, au point que la mort n'est qu'un tigre de papier, pour reprendre une expression chinoise, et que Dieu peut susciter la vie, même là où nous pourrions croire qu'elle n'est pas possible. Il y a eu quelques naissances dans le monde, dont l'une récente en Angleterre, d'un enfant vivant par césarienne chez une mère qui n'avait plus d'utérus, qui n'avait plus de matrice. L'enfant, l'embryon, donc c'était une grossesse extra-utérine par définition et par obligation puisqu'il n'y avait plus d'utérus, s'est implanté dans l'épiplomb, dans cette membrane nutritive pour le tube digestif, à travers laquelle on peut même faire des dialyses. La dialyse péritonéale se fait à travers cette membrane. Et l'enfant s'est implanté dans cette membrane et s'est développé jusqu'à terme. Et il est par évidence également née par césarienne. Et il y a quelques exemples de naissances de ce type. Ça vous montre la puissance de la vie.
Amen.
Et que, qui que nous soyons, nous ne pouvons pas nous opposer à Dieu. Mais toutes les situations dramatiques qui ont été évoquées, nous ne pouvons les vivre qu'avec l'aide de Dieu.
Amen.
Parce que si un enfant mal formé peut réunir des parents, il peut aussi, tout aussi souvent, conduire au divorce. Lorsque on le fait dans la division, et qu'on s'accuse mutuellement, par exemple, dans un couple, d'être peut-être responsable de cette malformation, chaque situation, nous avons la possibilité de nous écrouler parce que nous avons écouté ces esprits de séduction et de mensonge et de mort. Et dans chaque situation, nous pouvons remporter une victoire avec l'aide de Dieu, qui est le Dieu de la victoire, le Dieu de la vie, le Dieu du salut, le Dieu de l'amour. Et je crois que c'est un défi qui est donné dans cette génération, pour une génération qui voit venir le Fils de Dieu, qui veut établir une nouvelle alliance avec nous. Alors, en Église, dans le corps du Christ, comme Gitane l'a dit ce soir, nous sommes les seuls à avoir la solution, à la connaître. Alors, à nous d'en être déjà persuadés, de grandir dans la connaissance de ce Dieu qui donne cette solution, pour pouvoir le transmettre et le dire. Et en tout cas, bien que la soirée soit pas terminée, mais je vais passer la parole au pasteur Rivaud après pour des informations, nous pouvons en tout cas tous ensemble remercier Dieu qui nous parle ce soir à travers notre sœur Gitane, la remercier elle pour ce témoignage courageux et aussi pour cette confiance suffisante que Dieu a mis en elle alors qu'elle ne le connaissait pas encore pleinement, de dire non à une œuvre de mort qu'elle reconnaissait comme telle et qui montre comment l'ennemi va à sa perte, puisque lorsqu'il propose le mal, un certain nombre sont évangélisés à travers ces offres négatives et peuvent après accepter une œuvre de vie, puis rencontrer celui qui les a inspiré avant même de le connaître. C'est quand même un témoignage extraordinaire. On remercie Gitane.